C'est une expression magnifique qui a exprimé ici ce cantique. J'ai confiance en Jésus jour après jour, quelle que soit la tempête. Oui, c'est cela qui compte. Ce n'est pas seulement lorsque une année s'est terminée que nous pouvons dire l'année dernière, j'ai fait confiance au Seigneur, mais cela continue aussi dans la nouvelle année. Et pas seulement tout au long de la nouvelle année, mais jour après jour, quelles que soient les circonstances qui peuvent se présenter, en dépit de tout ce qui peut arriver, nous voulons faire confiance au Seigneur. C'est aussi ce qu'a exprimé ici ce cantique. Et je pense que si nous regardons les Écritures, ce n'est pas seulement dit ainsi, mais nous voyons aussi dans la pratique qu'il y avait des hommes de Dieu qui se tenaient là dans la foi et la confiance dans le Dieu vivant. Et si je peux nous lire la parole tirée de 2 Corinthiens au chapitre 1, Frère Franck a déjà lu ce chapitre aujourd'hui, mais je voudrais lire du verset 8. 2 Corinthiens 1, verset 8. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, la tribulation qui nous a frappés dans la province d'Asie. À savoir que la souffrance a pesé sur nous d'une manière si excessive, si insupportable, que nous avons même renoncé à notre vie. Nous avions même pensé que nous devions mourir. Nous devions apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est une parole merveilleuse qui correspond à ce que nous avons déjà chanté. Ici, Paul et peut-être ses compagnons d'armes, si je puis dire, ainsi se trouvaient dans la province d'Asie et ils devaient être dans une situation très difficile. Et peut-être demanderions-nous pourquoi les hommes de Dieu devraient-ils aller mal? Dieu n'est-il pas là pour prendre soin d'eux, pour qu'ils se portent bien? C'est pourtant la question que nous pourrions poser. Mais je pense que cette question est superflue. Nous n'avons pas besoin de la poser, ni d'y répondre. Mais nous pouvons nous souvenir d'une parole qui est également écrite. Tous ceux qui veulent vivre dans la piété et servir Dieu devront souffrir la persécution. Maintenant, la manière dont la persécution se produit reste en suspens. Elle n'est pas unilatérale, mais surprenante. Et peut-être même surprenante pour Paul, au point qu'il pensait que c'était fini, que c'était la fin. Et il disait, maintenant nous devons mourir. Mais cela ne leur a pas servi à faire du mal, mais du bien. Car il dit au verset 9, nous devrions justement apprendre à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en le Dieu qui ressuscite les morts. Frères et sœurs, il veut dire aux croyants qu'eux aussi ne doivent pas placer leur confiance en eux-mêmes, mais dans le Dieu vivant, qui est capable de ressusciter les morts. Et frères et sœurs, j'ai déjà dit que nous sommes entrés dans l'année 82 et que nous ne savons pas ce qu'elle va nous apporter. Et c'est peut-être aussi une bonne chose que nous ne sachions pas ce qu'elle nous apportera. Sinon, nous sommes des êtres humains. Et Paul ne savait peut-être pas non plus ce qui l'attendait dans la province d'Asie. Mais lorsqu'il l'a rencontré, il a pu lever les yeux vers le Dieu vivant dans la foi et la confiance. Frères et sœurs, je voudrais nous crier à tous et éveiller en nous la confiance que nous n'avons pas besoin d'entrer dans l'année à venir dans l'incrédulité ni dans le découragement ou l'angoisse. Non, mais nous appartenons au Seigneur et vous le savez, quoi qu'il arrive. J'ai déjà parlé hier soir de notre cher frère. Il y a un an, il était condamné à mort. Mais je voudrais dire quelque chose ici aussi. Nous ne voulons pas nous vanter, mais ce qui peut être dit doit être dit. Je voudrais dire que la confiance de mon frère et aussi la mienne et aussi la vôtre était dirigée vers le Dieu vivant. C'est un fait. Et nous voyons que Paul a considéré que c'était la fin, qu'il devait partir. Et nous aussi, nous avons peut-être considéré que c'était la fin. Mais le Dieu fidèle, il savait ce qu'il faisait. Il le sait aussi aujourd'hui. Il le sait aussi pour les années à venir. Et puis, il est dit ici quelque chose de merveilleux, verset 10. Il nous a donc aussi sauvés d'un si grand danger de mort et il nous sauvera encore à l'avenir. N'est-ce pas merveilleux? Il nous a sauvés d'un si grand danger de mort et ensuite la foi continue et il nous sauvera encore à l'avenir. Avons-nous tous la foi? Oui, alors nous pouvons dire Amen. C'est merveilleux. Oui, il nous sauvera. En lui, nous mettons notre espérance. Est-ce que nous disons tout cela en silence? L'avez-vous tous répété avec nous? Nous devrions tous le dire et croire avec lui. Sinon, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous mettons notre espoir en lui, qu'il nous sauvera aussi à l'avenir, même en cette année 1982. Loué et remercié soit notre Dieu. Nous sommes si heureux de sa précieuse et sainte parole, de sa promesse. Et nous savons que ce qu'il promet, il le tient certainement. Et c'est pourquoi nous voulons lui apporter l'honneur et lui offrir notre adoration. Levons-nous pour prier ensemble. Dieu fidèle, nous te remercions du fond de nos cœurs pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions, ô Seigneur, de ce que tu guides et diriges merveilleusement les tiens à travers les profondeurs et les hauteurs. Seigneur, mais nous voyons les hommes de Dieu. Ils n'ont pas jeté leur espérance même dans les jours de tribulation, même dans les jours d'épreuve. Non, ils ont mis leur espérance en toi. Dieu fidèle, ce soir, nous plaçons notre espérance pour toute l'année et pour le temps qui nous reste à vivre En toi seul, ô Dieu, à ton nom seul, la gloire et l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Nous regardons en arrière sur les jours où Dieu nous a parlé et nous a bénis. Et il est certain que nous emporterons certaines choses sur notre chemin de vie qui nous aideront à mieux servir le Seigneur et à être à sa disposition. Frère Rousse a encore fait la remarque de ce que de mon état il y a un an. Personne ne peut le mesurer à moins de l'avoir vécu soi-même et de savoir comment on se sent. Mais je veux que vous sachiez que je n'ai pas demandé à être guéri. Je voulais rentrer à la maison à tout prix, dans la gloire. Et ma dernière question était seulement que je ne pouvais d'ailleurs plus parler, mais seulement parler à moi-même. Seigneur, comment me tiens-je devant toi? Et c'est la dernière chose dont je me souviens. Et ensuite, j'étais en effet hors du corps et j'ai vu la transformation, le changement et l'enlèvement d'une manière merveilleuse. Puis, quand je suis revenu dans le corps, j'ai pleuré amèrement. Les larmes coulaient à droite et à gauche et elles étaient très chaudes. Je sentais la trace sur laquelle elles coulaient car j'étais tellement déçu d'être revenu dans ce corps. Oh, celui qui a fait l'expérience de la gloire de Dieu ne veut plus revenir. Il veut être auprès du Seigneur, avec le Seigneur. Et maintenant, malheureusement, je suis encore ici, peut-être une nuance, pour une nuisance, pour certains, une bénédiction pour d'autres. On ne peut pas changer cela. Paul écrit au même Corinthiens, nous sommes pour les uns une odeur de mort pour la mort et pour les autres une odeur de vie pour la vie. On ne peut tout simplement pas changer cela. C'est ce qui s'est passé avec notre Seigneur dès sa naissance. On lui a dit, tu es né hors mariage et tu veux nous enseigner, etc. Et c'est ainsi que nous subissons tout, quoi qu'il en soit. L'important, c'est que nous servions Dieu de tout notre cœur et que les gens trouvent le chemin du salut. Et je souhaiterais que Dieu puisse utiliser ma vie pour montrer à beaucoup encore le chemin vers le Seigneur, que certaines âmes puissent encore être arrachées et amenées au Seigneur par grâce. La parole selon laquelle nous devons placer notre confiance dans le Seigneur est tout de même une parole glorieuse. Paul a dit, nous devons apprendre par cela à mettre notre confiance, non pas en nous-mêmes, mais dans le Seigneur. Et nous savons bien qu'il est écrit, celui qui place sa confiance dans le Seigneur ne sera pas confondu. Celui qui place sa confiance en lui-même ou en d'autres doit être confondu afin qu'il comprenne qu'il doit placer sa confiance dans le Seigneur. Et nous sommes donc également reconnaissants pour cette parole. Ce soir, la table est bien garnie. Nous avons le baptême, nous allons avoir le souper, nous allons avoir le lavage des pieds et tout cela en si peu de temps. Il ne nous reste donc plus qu'à effleurer les passages bibliques, à y faire brièvement référence, puis à passer aux différentes parties. Je voudrais lire Hébreux 10 à partir du verset 10. Hébreux 10, verset 10. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Verset 11, et tout sacrificateur, il est vrai, se tient là jour après jour, accomplissant son service et offrant toujours les mêmes sacrifices qui pourtant ne sont jamais capables d'ôter les péchés. Verset 12, celui-ci, au contraire, n'a offert qu'un seul sacrifice pour les péchés, puis s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13, il attend maintenant jusqu'à ce que ses ennemis soient placés sous son marchepied. Verset 14, par une seule offrande, il a amené au but pour toujours ceux qui se sont laissés sanctifier. Verset 15, l'Esprit Saint nous en rend témoignage, aussi témoignage, nous en rend aussi témoignage, pardon, car selon les paroles. Verset 16, voici l'alliance que je conclurai avec eux après ces jours-là. Le Seigneur poursuit. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Verset 18, mais là où ils ont trouvé le pardon, l'offrande pour le péché n'est plus nécessaire. Verset 19, puisque nous avons donc, frères, la joyeuse assurance d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus. Verset 20, c'est la voie nouvelle et vivante qui nous a inaugurés à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Verset 21, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Verset 21, approchons-nous d'un cœur sincère avec une pleine assurance de foi après nous être débarrassés de la mauvaise conscience par l'aspersion des cœurs et avoir lavé nos corps avec de l'eau pure. Verset 23, restons inébranlablement attachés à la confession de l'espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 24, et veillons aussi les uns sur les autres pour nous inciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Verset 25, ne manquant pas nos réunions, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous encourageant mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez déjà le jour approcher. Voilà pour cette sainte et précieuse parole de Dieu. L'apôtre fait ici la comparaison entre les sacrificateurs qui ont offert jour après jour et à plusieurs reprises les mêmes sacrifices, mais qui n'ont jamais été capables d'ôter les péchés. Mais ensuite, il parle de Jésus-Christ, notre Seigneur, de celui qui est mort à ta place et à la mienne sur la croix à Golgotha, qui a pris sur lui tes fautes et les miennes, qui a pris sur lui ton abandon de Dieu et le mien. Et il dit ici, ou alors qui a pris sur lui ta séparation d'avec Dieu et la mienne. Et il dit ici, par l'offrande de son corps, il a offert une fois pour toutes un sacrifice et réalisé une rédemption valable éternellement. Les nombreux sacrifices ont fait allusion à ce sacrifice unique qui serait offert. Je suis reconnaissant au Seigneur de nous permettre aujourd'hui de faire référence à ce sacrifice unique, à l'agneau sacrifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Et ensuite, il est simultanément question de la nouvelle voie vivante, de l'entrée dans le sanctuaire céleste et du fait que nos cœurs ont été aspergés et que nous pouvons nous présenter ainsi devant la face de Dieu. La rédemption est un fait mis à notre disposition par Dieu lui-même. Elle n'est plus à faire ni pour toi ni pour moi. Elle a déjà été faite pour toi et pour moi. Nous sommes rachetés par la grâce. Permettez-moi de lire à ce sujet Colossiens chapitre 2. Et comme nous avons tout de suite le baptême, nous allons prendre des passages qui résument les deux, la rédemption et le baptême. Colossiens 2, verset 12. Ici, dans Colossiens 2, nous lisons du verset 12. Puisque vous avez été enseveli avec lui par le baptême, en lui, vous avez aussi été ressuscité avec lui par la foi en l'opération de la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Vous aussi, qui étiez morts à cause de vos transgression et de l'état incirconcis de votre chair, Dieu vous a aussi rendu vivant avec lui en nous pardonnant par grâce toutes nos transgressions. Verset 14. En ce qu'il a effacé l'acte des fautes dont les ordonnances nous condamnaient, qui était un obstacle à notre salut, et qu'il l'a supprimé en le clouant à la croix. Verset 15. Puis, après avoir complètement désarmé les puissances et les autorités, il les a exposés publiquement et a triomphé d'elles en lui. Il y a tant de choses dans cette parole que nous venons de lire. Et nous pourrions parler de chaque verset pendant une heure entière, voire plus. Il y est question du fait que nous avons été rendus vivants avec Christ. Non pas hier, ni il y a un an, ni il y a 10 ans, mais que Christ est mort pour nous et que nous avons été ressuscités en lui par la puissance de Dieu, parce que nous avons été destinés par Dieu à une vie nouvelle, à une vie éternelle avant la fondation du monde. La foi en Jésus-Christ n'est pas un hasard, mais une belle et bonne planification de notre Dieu. Dieu savait qui accepterait le salut et qui ne l'accepterait pas. C'est pourquoi dans son omniscience, il pouvait déjà inscrire à l'avance dans le livre de vie de l'agneau immolé les noms de tous ceux qui deviendraient croyants. Et maintenant, lorsque le temps était accompli et que notre tour était venu, il nous a appelés. Mais nous avons déjà été crucifiés avec Christ autrefois. Nous avons déjà été ensevelis avec lui autrefois. Nous sommes ressuscités avec lui pour une vie nouvelle, pour marcher en nouveauté de vie par l'action de la puissance de notre Dieu. Il est dit ici, nous avons été rendus vivants avec lui par Dieu. Et il nous a pardonné toutes nos transgressions par grâce. Et non seulement cela, mais il est dit plus loin au verset 14, en ce qu'il a effacé l'acte des fautes dont les ordonnances nous condamnaient, qui était un obstacle à notre salut, et qu'il l'a supprimé en le clouant à la croix. Lui, le législateur, lui qui a donné la loi, qui avait établi ses ordonnances pour convaincre tout homme de péché, est venu lui-même prendre sur lui nos fautes à tous. Et il a même fait disparaître, il a même supprimé, effacé l'acte des fautes. Nous savons que parfois, lorsque des personnes doivent quelque chose et ne peuvent pas le payer, combien il serait agréable que cette acte de faute soit alors effacé et que la personne concernée puisse sortir librement. Imaginez-vous que vous deviez 10 000 marks ou shillings ou francs à un homme ou ce que vous voulez, et que soudain quelqu'un vienne payer cette dette à votre place, et pour que cette personne à qui vous deviez cette chose ne puisse pas la réclamer à nouveau, la chose est supprimée, effacée, éliminée, pas simplement classée sur le moment pour la ressortir plus tard, mais complètement détruite, effacée, annulée, supprimée. Celui à qui nous devions quelque chose ne peut alors plus du tout venir, car la dette est payée, la faute est payée, et toute trace qui pourrait renvoyer à cette dette, toute trace est effacée. Cet acte, cette reconnaissance de dette, comme la Bible l'appelle ici, cet acte de faute a donc été complètement anéanti, effacé, annulé, supprimé. Aucune banque ne peut plus venir et dire, oui, écoutez, vous devez, mais alors on dit, mais monsieur Maillard a payé. Oui, attendez, ça ne ressort pas clairement ici. Plus personne ne trouve rien. Le diable a beau chercher, il ne trouve plus rien. Il est certes l'accusateur des frères, Mais la reconnaissance de dette, l'acte des fautes, il ne la trouve pas. Elle a disparu. Tout comme la dette a disparu, la reconnaissance de dette a elle aussi disparu, l'acte de faute. Et elle n'est pas seulement un peu raturée, mais détruite, mise de côté. On ne peut plus la sortir. Et d'une manière ou d'une autre, par la porte de derrière, elle a disparu. Tout a été encore une fois. On écrit encore une fois brièvement. Cher monsieur, tel et tel, vous nous devez encore ceci et cela. Et si l'on voulait ensuite dire, cela a pourtant été réglé. Ah, pardon, nous nous sommes trompés. Oui, le diable s'est souvent trompé. Derrière, il veut toujours faire valoir ses droits. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a offert une rédemption et un pardon complet en Jésus-Christ notre Seigneur par grâce. Nous l'avons accepté dans la foi. Et non seulement cela, mais il a même mis le coupable au pilori. Nous ne pouvons pas entrer dans tout, mais il a même mis le coupable au pilori en public, à savoir le diable et tous les démons qui, au fond, sont responsables du fait que nous soyons devenus coupables. Et ensuite, après avoir fait tout cela, il a publiquement exhibé et a triomphé de en lui. Donc Dieu en Christ comme un triomphe sur toute la violence de Satan. Nous avons été rachetés et sommes devenus la propriété de notre Dieu. Pas seulement pour le temps, mais aussi pour l'éternité. Maintenant, nous connaissons tous l'ordre de mission et savons que le Seigneur a dit que nous devions aller dans le monde entier pour annoncer sa parole. Et cela s'est passé dans les Actes des apôtres. Et c'est là le modèle auquel nous devons nous conformer. C'est ici qu'a eu lieu la première prédication et j'aimerais que cela nous arrive comme aux gens de l'époque, c'est-à-dire par le cœur, traversant notre cœur, pas seulement par la pensée, mais comme un coup de poignard dans le cœur. Lisons, s'il vous plaît, le verset 37 du deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 2, verset 37. Lorsqu'ils entendirent cela, ce fut comme un coup de poignard dans leur cœur et ils se tournèrent vers Pierre et les autres apôtres et demandèrent « Que ferons-nous, chers frères ?» Pierre leur répondit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Verset 40. Il leur adressa aussi des paroles pressantes. En bien d'autres termes, les avertissant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, puis ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et ainsi environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. L'effusion du Saint-Esprit venait d'avoir lieu. Les gens accouraient par milliers, car cela se faisait dans un grand bruit venant du ciel. Et le peuple courait là-bas où ce bruit se faisait entendre et ils ont pu constater qu'avec ce bruit venu du ciel, quelque chose est arrivé sur la terre par lequel les croyants ont été bénis. Et ils n'ont pas seulement reçu cette bénédiction divine pour eux-mêmes, mais ils l'ont reçue pour pouvoir la transmettre aux autres. Et que Dieu nous accorde la même chose par grâce. C'est cette foule rassemblée qui s'est exclamée : que devons-nous faire pour être sauvés ? Et la réponse est : repentez-vous ou convertissez-vous. Repentez-vous, regrettez vos péchés, votre vie durant et tournez-vous vers le Seigneur. Commencez une vie nouvelle par la grâce de notre Dieu. Vous savez que seuls peuvent être baptisés les personnes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui croient de tout cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix à Golgotha pour nos fautes et nos péchés. Il est alors dit, ceux qui acceptèrent donc sa parole, qui reçurent sa parole, se furent baptisés. Verset 41. Pierre a annoncé la parole de Dieu et les gens l'ont accepté et se sont fait baptiser. Nous pouvons dire la même chose aujourd'hui. Celui qui a reçu et accepté Jésus-Christ, celui qui croit en sa parole de tout son cœur, et peut-être lirai-je le verset du chapitre 8 des Actes des Apôtres. Ensuite, ici, un individu est baptisé et il est dit au chapitre 8 du verset 36. Actes des Apôtres 8, verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à une rivière et l'officier de la cour dit : voici de l'eau, qu'est-ce qui s'oppose encore à mon baptême ? Philippe lui répondit : si tu crois de tout ton cœur, verset 37, cela peut bien se faire. Celui-ci répondit : je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38, il fit donc arrêter le char et tous deux descendirent dans l'eau. Philippe, aussi bien que l'officier de la cour, et il le baptisa. C'est un événement merveilleux. Il y avait là un homme qui avait lu le prophète Ésaïe et qui ne l'avait pas compris. Dieu lui a envoyé Philippe et l'homme a été éclairé. Il n'a plus eu besoin d'une longue conversation. Alors qu'ils étaient encore en route et en pleine conversation sur le Christ et la parole de Dieu, ce n'est pas Philippe qui a dit « voilà de l'eau ». Mais le haut fonctionnaire, il a dit « attendez, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Ce n'est pas celui que Dieu utilise pour conduire un autre au Seigneur qui doit user de son influence et dire « écoute-moi, tu devrais. Non. C'est plutôt celui qui est devenu croyant, qui doit avoir ce désir dans son cœur et dire, cela doit venir de lui. Je crois et je veux être baptisé. La première eau que cet Tom a vu, il l'a immédiatement considéré comme une chose dans laquelle il pouvait être baptisé. Ça, ce sont les meilleures conversions. Celles qui ne remettent pas d'abord les choses à plus tard et qui réfléchissent longtemps. Utilisez donc l'intelligence pour les choses humaines et la foi pour les choses divines. Ici, cet homme a cru et il a dit, voilà de l'eau. Qu'est-ce qui fait encore obstacle à mon baptême? Nous pouvons vous le dire ici aussi. Il y a de l'eau. Je me tiens au-dessus de l'eau. Qu'est-ce qui fait encore obstacle à mon baptême? Tous ceux qui croient de tout cœur en Jésus-Christ peuvent faire l'alliance de la bonne conscience avec Dieu. Ils peuvent être ensevelis avec Christ et ressuscités pour une vie nouvelle. Dans Romains 6, Paul écrit à l'Église et donc à nous aussi. Romains 6, verset 3. Ou ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions dans une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Nous pourrions continuer à lire ici, mais je pense que tous ceux qui veulent être baptisés aujourd'hui ont déjà reçu l'enseignement de la parole et de l'esprit, de la parole et par l'Esprit de Dieu, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en dire plus. Que le Seigneur bénisse sa parole en tous ceux qui font aujourd'hui le pas biblique de l'obéissance à la foi et qui se font baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de celui qui nous a rachetés et délivrés, qui a versé son sang sur la croix à Golgotha, afin que nous soyons rachetés. L'acte des fautes a été effacé. Et après avoir été effacé, détruit. Puis celui qui a été responsable de tout, avec ceux qui l'ont aidé, a été publiquement mis au pilori avec ses complices. Donc ce n'est pas le pécheur qui a été dénoncé, mais Satan, l'ancien serpent par lequel le péché est entré dans ce monde. Nous l'avons déjà écrit dans la promesse de la Genèse au chapitre 3, au verset 15, que la semence de la femme, c'est-à-dire le Christ, écrasera la tête du serpent. Non pas en donner une sur la tête d'Adam ou sur celle d'Ève, mais il savait à qui la tête devait être écrasée, à savoir à Satan, le serpent. Mais les autres devaient être libérés et amenés dehors, affranchis. Nous savons et nous pourrions aussi aborder le sujet que la mort s'est étendue à tous les hommes parce qu'ils ont tous péché. Et Paul parle dans 1 Corinthiens 15 de l'aiguillon de la mort. Cet aiguillon de la mort nous a tous piqué. Il a aussi piqué le Christ. car il est écrit, il te piquera au talon, mais tu lui écraseras la tête. Lorsque Jésus-Christ a été crucifié, Satan a planté l'aiguillon de la mort en lui, mais au bon endroit, c'est-à-dire dans le talon. Et en même temps, il lui a écrasé la tête. Alléluia! Loué soit le nom du Seigneur. Si l'ennemi avait piqué ailleurs, le Seigneur n'aurait pas pu le frapper d'un seul coup. L'ennemi a piqué là, le Seigneur n'a pas eu besoin de se fatiguer. Il a juste abaissé son pied sur la tête du serpent et l'a écrasé pour que toi et moi puissions sortir librement. Jésus-Christ est devenu notre Rédempteur, notre Sauveur. Que son nom soit hautement loué et glorifié. Amen.